tu sais, je suis fatigué, c'est tout.
Non, pas toi. Moi. J'ai changé, en même temps, je reviens à moi. Alors, qu'est-ce que c'est?
Je sais pas.
Bon, puisque tu sais pas, donne-moi une cigarette.
La mobilisation est finie, et le long des tours, vers le flux laminal. Une pure comédie cosmique, s'ouvrant sous son plancher de théâtre, sur une salle des machines en surchauffe.
De la mer, il y a comme un balancement mondi qui vous met le cœur à l'heure, avec le sable qui se marie un peu, comme les vieilles putes qui remontent leur peau
par
qui tirent la couverture
sur
immobile.
Or,
l'immobilité, ça dépend du siècle.
In,
c'est
sur
la vitesse,
trans, démarrer. Je viens à vous suite à la lecture du livre Klinamen. Flux absolu et loi spirale, aux limites fluctuantes, transitionnelles, alternées et altérantes. En transition, rien ne semble s'y fixer, et pourtant, en émerge des tendances fondamentales, immersion, émersion, avancée, recul, alluvion. Alluvion. Mouvant, nous sommes dans l'estran, et pourtant. Il est important de pouvoir dormir. Et dormir n'est pas la mort morte. Il est important de pouvoir garder. Et garder n'est pas capital. Quelque chose reste, quelque chose peut, quelque chose insiste. Et c'est cette chose d'une valeur incommensurable. C'est cela même qui peut être soumis à exploitation. L'économie du livre ne se distingue pas de son objet, si l'on peut dire, de ce qu'il souhaiterait mettre en exergue, quelque chose de terrible, mais qui s'y dissimule à mesure qu'on tente de le fixer, qui aime à se cacher, y compris dans les pensées qui semblent s'y opposer. Cette conversation aurait pu commencer ainsi. Tout revient au même. Recommencer, commencer, comme cela. Mais pas de la même façon. Cette conversation, une conversation. La seconde avec vous, Frédéric Nera, revient. Mais pas de la même façon. Une spirale. Revenir, devenir, retenir. rien ne se raccommode. Nous avions à l'époque surtout parlé de Artaud, de l'envoûtement occidental, de l'escroquerie fondamentale et des effets dévastateurs des protections excessives. Une sphéro-poétique. Nous en parlons. Dans l'estran. J'ai devenir crabe et coquillage. Rive et dérive. Des insulations cosmopolitiques. Du ek en relation. De l'existence. Dans le paradoxe, en mouvement, de l'isolation qui surexpose et de la soustraction qui immerge. Clinamen. De manière classique, le livre aurait pu être sous-titré à la Emmanuel Kant de l'antinomie du jugement éco-poétique. Il y a, et il n'y a pas, de la double contrainte. Et sortir sans sortir de l'antinomie, sortir du problème plutôt que soi-disant le résoudre, disait Deleuze, passe par une étude précise, mais pas trop, critique, mais non auto-immune, mouvante, mais non fluente, hantée, avec ou sans H, sur, par, sur et par quoi au fond? Il n'y a pas de fond. Un truc, un fixe, comme disaient les anglo-saxons, à même le substrat abîmé. Une étude des lois de transformation des solutions de rechange. En vue. Mais est-ce une vue? Cela revient d'une désintégration. Non pour l'amour des ruines, mais pour les chemins bruissants qui les traversent. Car des monuments, des musées glacés furent érigés, d'autant plus retors qu'ils furent dissous, quelque part, partout, dans le réel, dans la pensée, dans le réel. Cela revient, le devenir microbien de Dieu, de l'absolu. Artaud le MoMA, disait Derrida. Je retiens cette phrase extraordinaire d'un autre mausolée. Phrase extraordinaire de Lévi-Strauss, ce premier deep ecologist. Je cite. En isolant l'homme du reste de la création, l'humanisme occidental l'a privé d'un glacis protecteur. Cela revient, cela devient, cela retient. Quelque chose fut écrit. On s'y lance plutôt que rien. Ce rien, ici et maintenant. Car, tout de même, nous sommes dans l'absolu. Séparation, achèvement. Se substitue. Et nous ne savons qu'elle est retrouvée. Quoi? L'éternité qui court peut-être à sa perte. La dépendance. Car dites-vous, dans ce livre des préfixes, le délier ne peut se délier. Non pas seulement du lien, mais aussi de sa supposée déliaison. Mais, et, c'est tout le problème qui revient. Il ne suffit pas de couper la tête à la transcendance, au risque de... La pensée mise ou que en faire commun est une pensée commune. Du négatif.
Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir ? Avec nos avions qui damnent le plomb au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres.
En vous écoutant, je pensais que la meilleure manière finalement de rendre justice à votre propre lecture, ça serait d'abord d'avoir une sorte d'écoute flottante. Ce terme est employé dans la psychanalyse, c'est pas en termes psychanalytiques que je vais employer cette expression maintenant, mais ce serait une écoute qui serait apte à pouvoir entendre les liens, les passages que vous effectuez par votre propre regard et par votre propre écoute à l'intérieur du texte que j'ai proposé, qui lui-même finalement est travaillé par cette question du lien, de la déliaison, par cette question des passages, par cette question de l'intermittence des passages, et par ce qui pourrait obstruer le passage lui-même, les passages en tant que tels. Par ce qui pourrait conduire à une liquidation telle que l'idée même de passage n'aurait plus de sens, ou à l'opposé, par une structuration telle des choses, de l'ordre des choses, par un ordre tel des choses, qu'aucun passage ne serait plus possible. D'une certaine manière, il s'agissait dans ce livre d'éviter ce double piège qui serait d'une part la fluidification absolue, et donc non pas simplement le fait de flotter, mais le fait de couler, ou bien la coulée rigide, la coulée de Pompéi, susceptible de pouvoir arrêter le mouvement même du vivant sous l'auspice d'une sorte de concrétisation rigide et inerte dans laquelle tout mouvement cesserait. C'est comme si j'avais cherché à trouver cet intermédiaire entre de forme, de cessation, de l'existence comme telle, et effectivement, de forme de cessation de ce préfixe « ec » qui signifie un certain type de mouvement, mais un mouvement qui n'est plus de l'ordre du bouger, un mouvement qui n'est pas quelque chose qui s'échappe d'eux, ou bien alors c'est l'échapper même de ce qui existe, comme si être n'était qu'existant, qu'il n'y avait que l'existence et rien en dehors de l'existence, et que cette existence serait finalement une sorte d'être au dehors primordial, et cet être au dehors primordial serait non pas la sortie d'un quelque dedans, mais la tenue consistante d'un entre-deux, ni absolu, ni flux. Quand donc je dis le livre des préfixes, et quand je dis que finalement c'est peut-être l'autre titre, ou au moins l'autre sous-titre de Kinamen, j'entends la nécessité de se situer dans un espace intermédiaire de la pensée, mais après tout la pensée est un espace intermédiaire, une sorte de hors-là dedans, à partir duquel être capable de comprendre la formation même du monde, la formation même du monde que j'entends surgir du mouvement même de l'existence. C'est un livre qui contribue, je l'espère, à renouveler une philosophie de l'existence, ou, pour être encore plus précis, à renouveler le rapport entre existence et vie. Je crois que c'est dans ce rapport-là que se tient aujourd'hui le nerf ou le centre, disons, la tension fondamentale de la pensée. Ce qu'il nous faut, non seulement une philosophie de la vie, comme pouvait le soutenir il y a quelque temps Agamben, voyant les prémices de cette philosophie chez Deleuze ou chez Foucault, le dernier Foucault en tous les cas. Non seulement donc il nous faut celle-là, mais il nous faut aussi une pensée de l'existence. Et c'est bien le rapport entre les deux qu'il y a à penser. Une façon d'envisager ce rapport serait de parler de forme de vie. Alors on trouve cette expression chez de nombreux penseurs, on la trouve par exemple chez Agamben, on la trouve chez Wittgenstein, en tout cas dans la traduction qu'on peut en donner. J'écrirai forme de vie ainsi, avec non seulement des traits d'union entre ces trois mots, mais aussi avec une parenthèse avant le mot forme et juste après le mot de, c'est-à-dire en mettant quelque chose entre parenthèses qui serait la forme de. J'indique par cette parenthèse à la fois une différence entre existence et vie, forme 2 ici étant synonyme d'existence, et en même temps leur inséparabilité. Par inséparabilité, j'entends ici exactement ce qu'a pu en dire Muriel Combes dans un livre fondamental qui s'appelle « La vie inséparée », livre dans lequel elle montre de façon définitive qu'on ne peut pas séparer quelque chose de l'ordre d'une vie nue, comme le soutient quelqu'un comme Agamben, ou qu'on ne peut pas non plus simplement séparer quelque chose comme une pure désubjectivation, une absence d'identité, telle que, par exemple, on peut voir ce concept à l'œuvre chez Rancière. Effectivement, la vie nue est un fantasme qui n'arrive pas, ni dans les camps de concentration, ni dans les laboratoires. Pourtant, c'est un fantasme, ou plutôt, puisque c'est pervers, un programme. Le problème, bien entendu, c'est la façon dont une politique ou une science va s'acharner à pouvoir tenter de réaliser ce fantasme-là. Et bien entendu, le problème, et le problème le plus terrible, c'est que ça échoue, ça ne peut qu'échouer, ça échouera, mais ça peut échouer de la pire des façons. C'est-à-dire que isoler la vie nue, ça veut dire par exemple réduire le vivant à une formule mathématique. Alors on peut écrire cette formule mathématique, et on peut construire un monde autour de cette formule mathématique, autour de cette indemnisation métamathématique. Même si ça ne sera pas la vie, au bout du compte, qui sera atteinte, ce qui sera atteint, c'est la destruction du vivant. C'est-à-dire que si on ne peut pas séparer quelque chose comme une vie nue, cela veut dire qu'on ne peut que détruire, et détruire indéfiniment, puisque le procès est en soi sans fin. Forme 2, entre parenthèses, signifie que il est toujours envisageable de forcer la séparation absolue, c'est-à-dire le clivage. Ça veut dire, les parenthèses dont je parle autour de forme 2, ça signifie aussi expropriation. C'est-à-dire qu'on peut transformer les parenthèses en camps, on peut transformer les parenthèses en brevets, en droits de propriété. Ce qui veut dire désappropriation, expropriation exploitation en termes marxistes. Comment, à partir de là, réenvisager ce rapport de telle sorte qu'il puisse se soustraire à cette terrible soustraction? Je pense qu'une politique aujourd'hui doit être, je dirais, localement vitaliste. Localement vitaliste, ça signifie, premièrement, et c'est une chose dont on pourrait parler tous les deux également, car je crois que vous avez sans doute une opinion contraire sur ce point, que je ne pense pas qu'on puisse dire que la vie est le nom de l'être. Par contre, la vie est le nom de ce qui, dans l'être, sous la forme de l'existence, peut attester ce qu'est l'être, ce qui est totalement, ce qui est différent. Je veux dire que, deuxièmement, le vivant, ou les lois du vivant, ne sont pas en exception par rapport aux lois de la physique, en tout cas les lois de la physique, j'ai envie de dire, prigogiennes. Bon. Les lois du vivant, et en ce sens-là, sur ce point-là, quand Guilhem a raison, ne doivent pas être considérées comme étant en exception par rapport aux lois de la physique. Certes, et je dirais même d'autant plus, puisque les lois du vivant vont surenchérir sur la physique chaotique de l'être. Elles surenchérissent sur la finitude de l'existence. Elles surenchérissent sur la finitude de l'existence par la précarité du vivant. C'est-à-dire que le vivant, c'est le doublement existant. Ou on pourrait dire que le vivant, c'est ce qui atteste, par sa précarité, de la finitude de l'existence. Au centre de ce livre, au centre de ce livre qui passe son temps à fuir le centre, il y a un cauchemar. Je l'appelle le cauchemar de Nietzsche, et je l'appelle aussi l'absolu du milieu. Il y a un piège, en effet, dans cette invitation à penser au milieu. Il y a un piège qui consisterait à croire que penser au milieu est éviter les extrêmes. Or, bizarrement, le cauchemar dont je parle, c'est un cauchemar par lequel le milieu lui-même serait devenu absolu. Il ne suffit pas donc de se contenter de dire qu'on pense au milieu pour éviter les extrêmes ou pour créer un écart. L'écart n'est pas au milieu. L'écart ne se situe que dans un certain rapport de transcendance, au sens où je l'emploie dans ce texte, après Heidegger, après Bataille, c'est-à-dire non pas au sens de la transcendance infinie, non pas au sens de la transcendance théologique, mais au sens de ce mouvement même de l'existence dont il s'agit aussi au cours de cet entretien de montrer les linéaments. L'absolu du milieu serait asymptotiquement le refroidissement intégral du monde sous la forme d'une inertie qui se réaliserait à l'insu même des sujets mouvants. J'essaie de montrer dans ce livre que l'explication en termes de flux et en termes de vie liquide est insuffisante. L'idée selon laquelle on serait dans un monde purement liquide est fausse si on ne saisit pas que, asymptotiquement, quelque chose d'inerte se présage et se forme à même les flux. Asymptotiquement, il s'agirait de pouvoir programmer une forme d'inertie dans le mouvement, c'est-à-dire une sorte de perversion de l'énoncé d'Héraclite selon lequel on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Comment faire en sorte de pouvoir réaliser cet énoncé ? Il en est un qui consiste à faire en sorte, dans ce fleuve, d'y rester d'y rester pour ne pas avoir à se baigner plus d'une fois, c'est-à-dire à n'en pas sortir, on pourrait rêver de ne s'y baigner jamais deux fois. Il existe ainsi une façon d'être dans les flux que j'appelle les flux intégraux, qui consiste à être fluide sans devenir. Pour supporter cet énoncé cauchemardesque, je m'appuie sur des gens comme Virilio ou Baudrillard. Virilio ou Baudrillard, qui pour moi ne sont pas tant les descripteurs du monde que des descripteurs du pire. Ainsi, Virilio ou Baudrillard, par exemple, me servent toujours pour montrer que le monde n'est pas prigogien. C'est-à-dire, le monde que nous fabriquons n'est pas un monde prigogien. La critique que j'aurais par rapport à ceux qui s'installeraient délibérément et tout de suite dans l'idée que nous aurions fait un monde déconstruit ou un monde prigogien, la critique que j'effectuerais par rapport à cette pensée-là, c'est que je crois qu'elle sera incapable de critiquer ce qui existe. C'est-à-dire qu'il faut mener aujourd'hui la pensée selon deux directions différentes. Pas simplement chercher une nouvelle alliance, mais aussi déconstruire les alliances anciennes. Et je pense que la philosophie qu'il nous faut doit être capable de prendre au sérieux le cauchemar de Baudrillard, le cauchemar de Virilio, c'est-à-dire ce que même Nietzsche n'aurait pas osé rêver. L'inertie, ou l'indemne, ou l'intégrale, ce n'est pas quelque chose qu'il faut trouver simplement chez l'autre, mais c'est une composante que l'on a en soi-même. Le combat est toujours un combat contre soi-même. Ceux qui se croient exemptés de l'inerte ou de l'indemne se trompent. Et avec Derrida, je parlerai bel et bien d'une pulsion de l'indemne, d'une pulsion de l'intégrale, c'est-à-dire une pulsion qui consisterait à pouvoir réserver une part de l'être hors toute atteinte. Et ce que j'essaie de montrer à différents endroits, c'est que ce qu'on appelle les pulsions de mort sont elles-mêmes enrôlées par les pulsions de l'indemne. Il s'agit de détruire pour prouver qu'il y aurait de l'indestructible. Autrement dit, les pulsions sont au moins au nombre de trois, et j'ajoute aujourd'hui un quatrième groupe de pulsions, une structure, disons, ce que j'appelle maintenant la pulsion phorique, c'est-à-dire on a bien les pulsions de vie, les pulsions de mort, les pulsions de l'indemne et les pulsions phoriques, comme métaphoriques. Et j'oppose dans mon diagramme les pulsions phoriques, les pulsions du transport, du métaphorique et du rétrophorique, à l'indemne. Et je crois que chaque être, chaque existant, a affaire à ces quatre pulsions, selon des modalités, bien entendu, diverses. La critique de l'intègre est donc une façon, à nouveau ici, de faire droit à Eros, de faire droit aux pulsions de mort en tant qu'elles seraient désintriquées des pulsions de l'indemne, en tant qu'elles pourraient être mises au service d'Eros, et mises au service également des pulsions phoriques. Les pulsions phoriques ne sont pas exactement les pulsions d'Eros, elles ont à voir, de même que l'indemne a à voir avec la mort, le phorique a à voir avec le vivant, mais les pulsions phoriques sont celles qui permettent d'envisager un transport qui ne vise pas l'union, qui ne vise pas simplement la construction, mais qui vise un saut fondamental que certains peuvent appeler tout simplement du terme de création. Si l'on regarde aujourd'hui le monde et qu'on essaye un peu de voir comment on peut faire tourner cette structure quadripartite avec ce qui nous arrive historiquement. Je parle d'une inertie, alors qu'on voit, par exemple, un printemps arabe, on voit des émeutes, on voit des insurrections populaires, on voit le mouvement Occupy Wall Street. J'aimerais, sur ce point-là, dire une ou deux choses. Prenons l'exemple d'un blocage. Qu'est-ce que c'est qu'un blocage ? Est-ce que bloquer veut dire, au bout du compte, servir l'inerte ? On pourrait croire ça. En fait, c'est le contraire. Un blocage, je parle ici en termes d'action politique, a toujours en vue de relancer le mouvement de la vie. Donc le blocage en soi n'est pas signe de l'inerte. Au contraire, je dirais que les mouvements qui bloquent sont des mouvements qui ont une tendance fondamentale à vouloir débloquer, si je puis dire, c'est-à-dire à pouvoir donner véritablement aux vivants droit de cité, donner à l'existence ce qui est son propre, c'est-à-dire de pouvoir affirmer sa singularité. Si je prends de même les mouvements d'occupation, l'occupation de l'espace est le moyen de fixer ce qui justement est sans limite. J'occupe un point pour montrer précisément que la finance est un point de captation intégrale, un substitut intégral, qui a pour effet de se rabattre contre la vie. La fixation en un point est le meilleur moyen de défixer les substituts intégraux.
Merci pour ces dessins. Ces dessins, ces tracés, ces semences. En vous écoutant, en ouvrant les écoutilles, qui peuvent qu'être ouverts d'ailleurs, mais peuvent plus ou moins laisser passer, être attentive à ce qui vient, retenir, sélectionne aussi toujours. Même pour une amibe, vivre, c'est préférer et exclure. Mise en amibe, en entretien, dans un entretien, dans des... En tentant d'entendre vos propos, vos propositions, en tentant d'habiter la multidirectionnalité que prend ce cheminement, que surprend ses prises et ses déprises. Si flottaison il y a, et non flux absolu, ni transcendance fixe sur le bateau cybernétique, alors quoi ? Pantarei serait passé dans la machine à fluidifier de l'hydroglobe, de l'hydropolis. Quel coup de force. Quel forçage de l'être avez-vous pu dire dans votre l'indemne Heidegger et la destruction du monde ? Heidegger, ce monsieur impossible, disiez-vous. Mais ici, le forçage est encore plus retors. Diabolique, ai-je pu dire. Qu'est-ce que quelque chose de diabolique, d'ailleurs ? Quel est le rapport avec le symbole ? Ici, c'est peut-être moins un forçage du change, comme dit Malabou, loin de la plasticité vivace, vivante, une forme de perversion du devenir. Et un de ses avatars, qui est un cauchemar de Deleuze aussi, que les sociétés primitives, dites primitives, auraient tenté de conjurer. À partir d'une certaine charge, dites-vous, l'immanence se sature. Mais quelle charge ? Où, comment, etc. Où se fait le poids lorsque l'immanence se sature. Vous parlez à cet égard de transfusion plutôt que de transfert d'absolu. Pour souligner l'opération perpétuelle de l'ouragan, à la manière dont certains ont pu travailler Marx, en soulignant la machination sans phare ni frein de l'accumulation dite bien à tort de primitive. Cette immanentéisation, que nous écrirons alors avec un TH, ce terrorisme de la tête, que Deleuze avait bien vu dans le spinozisme, les spectres de la transcendance de l'un. Ce théos, en tant qu'opération, est infernal. Subsomption formelle, a pu dire Marx, spectaculaire intégré, de bord, capitalisme mondial intégré, Guattari. Infernal. Nous parlions de bel enfer avec Jean Clémartin, lors d'un précédent entretien, lequel ne vous suivrait peut-être pas dans la nécessité que vous prononcez d'une sorte de micro-transcendance avec Heidegger et peut-être Bataille. Peut-être un certain après Deleuze rend difficile de poser la question de la négativité à nouveau frais. L'étouffoir peut ne pas être vécu comme tel. Virilio et Baudrillard sonnent le pire, et les effets de ces effets peuvent être désastreux, hyper négativistes, affadissants. Cette terreur asymptotique du passage à la limite du globe lui-même, anthropoformé, anthropomorphé, hydroglobalisé sous la forme que requiert l'humanisme transhistorique. Le camp d'Agamben. Pas facile de bouger dans un camp. Même si il n'y a pas de vie nue. Ça pose le problème du mythe et du phorique dont nous avons besoin, en effet. C'est pourquoi une certaine dose, tout un art de dosage que tout cela, ce que vous appelez le monde prigogien, ouvre l'espace des possibles pour conjurer le risque d'asphyxie. Transfusion est temporelle et thymétique, dites-vous. Et donc réouverture du dossier de la pseudo-sécularisation. Vous apportez pour cela des outils formels? Vous parlez schématiquement de trois immanences, de trois transcendances. J'ai trouvé ce passage très stimulant dans Clinamen. Entre TX et IX, le hors de, le EC, ne se capitalise dans aucun au-delà, mais se résout dans ce pas au-delà. Quelles implications pour les formes de vie et ces parenthèses locales, pour les forces de vie, pour ce vitalisme singulier dont nous pourrons faire quelque chose. Philosophie pratique. Quelles ouvertures quant à ce que nous pourrions nommer la production de l'antiproduction? Est-ce que d'ailleurs l'antiproduction se produit? Et qu'est-ce que désintégrer? Comment désintégrer? Plutôt. Sur le tard.
Je voudrais revenir sur quelques points dont tu parles, notamment la question de la saturation. La question de la saturation, c'est le milieu du livre et aussi un certain milieu du monde. La saturation, l'immanence saturée, une expression que j'emploie depuis un certain temps, a pour fonction de traduire une certaine tendance. Disons la tendance du pire, et tu as bien raison de rapprocher ça à un moment donné de ce que j'ai pu commencer à travailler via Heidegger. Quand je parle de saturation du monde, ou de l'immanence saturée, je ne veux pas du tout définir l'état unique d'une situation. À aucun moment pour moi il s'agit de définir le pire comme étant la situation dans laquelle nous serions déjà. Puis ça, c'est important par rapport à la question de l'usage de théoriciens comme Baudrillard ou comme Virilio. Ou, d'une façon générale, c'est important par rapport à la question de la façon dont certains auteurs, certains penseurs, on pourrait parler d'Agamben aussi d'une certaine manière, évaluent la question du pire comme étant là où nous sommes et évaluent à partir du pire un tournant interne qui nous permettrait d'en sortir. Ce n'est pas ce que je dis. L'immanence saturée est une certaine destination du monde en prise avec d'autres. Seulement, ce que je dis aussi souvent, c'est que il serait, disons, insuffisant de simplement évacuer ces pensées postmodernes et d'évacuer la possibilité qu'elles inscrivent. En revanche, ce qu'on doit refuser, c'est de considérer que cette possibilité est déjà est totalisante, et qu'on pourrait en sortir, qu'on pourrait sortir de cette totalisation, par exemple la totalisation spectaculaire, la totalisation du simulacre, la totalisation de la réalité virtuelle, par exemple, et on pourrait simplement s'en sortir par une sorte de tournant intérieur. Je pense que notre monde est constitué d'une multiplicité de totalisations en cours, de traits totalisants, disons. Il y a des traits totalisants, et il y a en même temps des processus de détotalisation qui sont à l'œuvre. Bien. Par exemple, Agamben, dans La communauté qui vient, envisage une sorte de spectacularisation totale du langage et considérerait dans ce livre que la classe la plus exposée à cette spectacularisation, c'est-à-dire la classe la plus nihiliste, c'est-à-dire la classe, la petite bourgeoisie, serait celle qui pourrait, parce qu'elle est la plus atteinte, produire la possibilité de sortir de cette situation. Je crois que c'est faux. Je crois que jamais le spectaculaire n'est entier, de même que jamais la vie n'est entièrement nue. Bon. En revanche, penser des tendances, c'est important. C'est important pour penser ce qui nous constitue. Tu as bien raison de dire que une lecture, disons, intensive et unique d'un Baudrillard pourrait conduire à un pessimisme de droite aggravé ou à une dépression sans espoir de sortie. En revanche, intégrer, si je puis dire, ces auteurs comme point d'analyse des tendances désastreuses du monde peut être intéressant. C'est ce que je fais avec Baudrillard dans mon livre. Je dis Baudrillard doit être retourné contre lui-même. C'est-à-dire que Baudrillard doit être retourné contre, enfin, ou pour, par exemple, pour une écologie. Alors que, par exemple, si tu lis certains auteurs américains, Verena Conley, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle Ecopolitics, pour elle, il est clair que Baudrillard, c'est l'horreur, et c'est, il n'y a pas plus opposé que Baudrillard, la pensée baudrillardienne, à une question de l'écologie. Moi, ce que je veux, c'est me servir de Baudrillard pour libérer l'écologie elle-même, pour une écologie politique ou pour une cosmopolitique. Bon. Qu'est-ce que la tendance à la saturation, on pourrait dire, en termes simondoniens, que la tendance à la saturation, c'est lorsque tout le pré-individuel est individué. Hein, c'est-à-dire que c'est l'assèchement des possibilités d'individuation, on pourrait dire ça, par exemple. Deuxième point par rapport à cette immanence saturée, je dis qu'il est préférable aujourd'hui de choisir une certaine conception de la transcendance. Alors, tu dis micro-transcendance. Je ne dis pas du tout ça. C'est-à-dire, je ne dis absolument pas qu'il y aurait une sorte de transcendance minimale, hein, à opposer à l'immanence. Hein. En ce sens-là, il faut suivre Deleuze, transcendance minimale, c'est pas bon. Non, ce que je dis, c'est que la transcendance, c'est l'être au monde. Donc ce n'est pas du tout la transcendance, ce n'est pas celle dont je parle, ce n'est pas la transcendance monothéiste, ce n'est pas la transcendance absolue et éloignée, c'est la transcendance au plus proche, c'est la transcendance de la proximité, c'est la transcendance qui me fait être au dehors. Pour moi, transcendance et existence sont des termes équivalents. Autrement dit, l'être au dehors est premier, du point de vue de l'existence, pas du point de vue de la vie. Du point de vue de la vie, nous sortons. Du point de vue de l'existence, nous sommes déjà sortis. Et je crois que l'une des tâches fondamentales de la philosophie, de la pensée aujourd'hui, est d'articuler la question du vivant, comme par exemple naissance, sortie d'un ventre maternel, et la question de l'existence comme être dehors. Et l'articulation des deux est pour moi l'enjeu fondamental de la philosophie. La forme de vie, la forme 2 dans l'expression forme de vie, la forme 2 veut dire existence. Et le fait que quelque chose soit inséparable entre l'existence et la vie ne signifie pas que l'existence soit la même chose que la vie. L'inséparabilité ne signifie pas fusion. Excuse-moi, l'inséparabilité. Oui, c'est ça, l'inséparabilité ne signifie pas fusion. Ce serait presque, pour reprendre une formule de Maître Eckhart, ou alors ce serait la fusion sans confusion, quelque chose comme ça, c'est-à-dire une pensée du distinct non séparable, quelque chose de ce genre-là. Enfin, sur la question de l'antiproduction et de la désintégration, ce que j'appelle désintégrer, c'est ni plus ni moins que déblayer ce qui obstrue notre vision du rapport de l'existence à la vie. Donc la désintégration n'est pas une annihilation, la désintégration est ce qui permet de pouvoir faire sauter des barrières, non pas pour aboutir au flux, mais pour aboutir à cette inséparation distincte. C'est-à-dire que si, par exemple, tu écris sur un tableau « forme de vie », avec des parenthèses autour de forme et autour de deux, d'accord ? Tu ouvres la parenthèse à forme et tu la fermes après le deux. On peut dire que le capitalisme thanatocratique exploite les parenthèses, c'est-à-dire font de ces parenthèses un clivage, et donc sépare. Alors on peut dire, il faut dire, avec Muriel Combes, il faut dire que on ne peut pas séparer la vie de sa forme, c'est-à-dire plus précisément, on ne peut pas séparer la vie de son individuation, et que pourtant, c'est bien ce qu'on tente de faire. Alors là, on rejoint la question de qu'est-ce que c'est que le pire ? D'une certaine manière, c'est impossible, on ne peut pas séparer, on ne peut pas isoler une vie nue, on ne peut pas isoler, on ne peut pas produire du pur spectaculaire, c'est impossible. Et c'est impossible qu'on réalise comme monde. Voilà, et je crois qu'il faut comprendre ça. C'est impossible et réalisé comme monde. Je crois qu'au fond, c'est une idée que je travaille depuis que j'écris sur Heidegger. Donc voilà ce qu'est la désintégration. Quant à l'antiproduction, ça signifie sans doute que vouloir une individuation totale, désirer l'individuation totale, c'est proscrire les possibilités. Ce que j'appelle antiproduction, c'est le mouvement, c'est un mouvement de récession, on pourrait presque dire ça, un mouvement de récession sans lequel la production devient un pur étalage saturé, sans intensité, dans lequel on ne devient plus. Et par rapport à la question de la négativité, pour finir sur ce point, je crois effectivement qu'on a du mal aujourd'hui à accepter le négatif. On a du mal à penser qu'il n'y a pas d'individuation sans sacrifice. Sans sacrifice, c'est-à-dire qu'il y a une négativité à loger dans tout devenir. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de la négativité ? Je pense que les pensées contemporaines se sont foreclose, disons, du négatif, et ont voulu s'en absoudre, liquider le négatif, nier le négatif, mais dans une forme de dialectique telle qu'elle laisse finalement l'usage du négatif au capitalisme, qu'elle laisse l'usage du négatif à ce qui nous fait du mal. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de sacrifier un peuple, le peuple grec. On sacrifie le peuple grec au nom de l'immanence saturée de la finance. Et je crois qu'une des fonctions de l'intellectualité aujourd'hui est de savoir métaboliser le négatif, métaboliser la négativité. Une vraie négativité, si je puis dire, si on peut parler de vraie négativité dans la théorie. Donc, si on cherche à comparer, déconstruire et désintégrer, la déconstruction laisse tout en l'état. C'est-à-dire, Derrida le dit sans arrêt. À la fois, il s'agit, par exemple, de remettre en cause la différence signifiant-signifié, mais aussitôt, Derrida ajoute que sans cette différence, on est cuit. Donc, autrement dit, la déconstruction prend toujours des objets qu'elle va laisser indemnes. Donc, je dis personnellement, changeons d'objet. D'où tout ce travail sur Derrida et Avital Ronel dans le livre, hein, changeons d'objet. Essayons de penser autrement le substitut, pas simplement comme ce qui vient toujours déjà remplacer une origine manquante, mais comme quelque chose que l'on produit comme tel. C'est comme si je voulais accentuer le regard sur la production réelle du monde et non pas sur le texte. C'est pour ça que j'essaie de dire qu'il n'y a que du hors-texte. Non pas que du vortex, mais que du hors-texte. Il n'y a que du hors-texte, ça veut dire que le texte lui-même est hors-texte. Qu'il n'y a que le monde. De cette manière, ça revient à dire il n'y a que le monde ou il n'y a que l'être au monde. Le texte est un constituant de l'être au monde. Le texte est fibré du monde et il fibre lui-même le monde.
Voilà le poulailler. Je mets beaucoup de consoude parce que la consoude produit jusqu'à 30 kg de feuilles par an et les poules, comme elles tassent et elles n'arrêtent pas de gratter le sol. Tellement elle mange tout, quoi. Donc, normalement,
ce qu'il faut, c'est créer des manières de faire, des manières d'être, des manières de s'adresser à ce qui existe, qui fassent que ce soit des collectifs qui s'en tirent et pas des individus qui ont plus de chance que d'autres. Hein? Donc là, on en revient à quelque chose qui était un des grands thèmes de Guattari dans les trois écologies, c'est-à-dire que le désastre frappe toujours trois fois. Il frappe au niveau de l'environnement vivant, de l'environnement terrestre. Il frappe au niveau de la personne individuelle, mais il frappe aussi au niveau des collectifs, au niveau des groupes. Et donc, ces traditions auxquelles je me réfère, c'est les traditions justement qui fabriquent des groupes, qui fabriquent des groupes capables de faire, capables d'initiative, capables d'inventer, et qui rendent leurs membres capables de ce qui ne serait pas autrement.
Pour ne pas finir, j'aimerais que nous abordions la question de la promesse dans sa relation avec la critique et le sauvetage. Peut-être parler de ces deux définitions contradictoires qu'Adorno, se tenant de la dite théorie critique, a pu énoncer à propos de la métaphysique, alors qu'on entend partout que la métaphysique serait et ça depuis très très longtemps serait désuète, serait caduque. Vous vous tenez à ce méta dans ce livre des préfixes. Méta que l'on retrouve d'ailleurs dans le métaphorique auquel vous en appelez, contre l'immanence saturée, avec et contre l'immanence saturée, et ce méta de la métabolisation. Quelle est la place du méta avec ses autres sub, dis, ab, ex, etc. Qu'est-ce qu'il s'agit de métaboliser ? Qu'est-ce qu'il s'agit de métaphoriser ? Et à cet égard, je m'interroge beaucoup sur cet ajout, disons, par rapport à la dualité, pulsion de vie, pulsion de mort, bipartition des pulsions, à laquelle vous ajoutez pulsion phorique. Et pulsion de l'indème. Comment se joue, se déjoue entre elles ces pulsions ? Un préfixe ajouté parce qu'il manquait un nom, ce fixe d'un contenu. Mais nous pouvons, comme Nietzsche, faire remonter le flot ardent de l'imagination humaine, sa capacité créatrice, pour nous réveiller de notre sommeil substantiel. certes, et non pas pour nous passer de la métaphysique. Le concept comme résidu de métaphore, dit Nietzsche. La déception doit laisser la place à la désillusion, et le flot ardent de l'imagination pourra s'atteler à d'autres tâches, d'autres transports, mouvements, véhicules, émotions. D'autres agencements subjectifs, d'autres relations avec le monde, avec nous-mêmes en tant que nous autres. Voilà ce qu'il faut promettre.
Ce qui est sûr, c'est que vous m'avez bien lu. Je dis ça parce que toutes les questions que vous posez pour finir, ou toutes les choses que vous soulevez, sont en l'air pour moi, au sens où elles sont précisément à l'œuvre dans ce que je travaille maintenant. Et cette conclusion, la conclusion de Klina Amen est en fait l'ouverture de ce qui manquait dans ce livre, entre autres, enfin il manquait bien entendu bien plus de choses que ce que j'ai soulevé et que ce qui reste encore en l'air, mais la question du méta, et donc de ce préfixe, qui en effet ouvre à la question du métaphorique et à la question de la métaphysique, ce préfixe a une place. Je dirais d'abord et avant tout que il me semblerait aujourd'hui dangereux, appauvrissant, de se débarrasser de ce préfixe. Le travail que j'ai accompli ces derniers temps consistait à pouvoir rendre compte du rapport que cette distance implique, la distance du méta, avec le concept de relation. C'est-à-dire, contrairement à certaines pensées actuelles, nommément le réalisme spéculatif qui tenterait de penser dans ses grandes lignes hors des relations à partir de ce qui me semble être une grave réduction de l'objet, je crois au contraire qu'il faut continuer à penser en termes de non pas object-oriented philosophy, mais quelque chose du genre field-oriented philosophy. Donc toujours en termes de relations. Il nous faut encore penser l'être comme relation. Mais il nous faut le penser, cet être en relation, en évitant le danger de ce qui serait l'un des énoncés qui semble également circuler beaucoup, notamment outre-Atlantique, selon lequel tout serait relation.
Alors vous m'interrogez sur ce concept de ce préfixe de méta. Et il est vrai que c'est un préfixe qui a mauvaise presse. Parce qu'il indique une forme d'extériorité, finalement, comme une sorte de surplomb. Et il est vrai que le surplomb, on en a mangé, finalement, si on prend l'exemple, enfin plus qu'un exemple, celui de ce qu'on pourrait appeler l'humanisme cartésien, si on donne au mot humanisme un sens transhistorique, qui n'est pas rattachable à une période précise, eh bien, la position cartésienne a consisté justement à envisager une forme d'extériorité vis-à-vis du monde, rendant possible le contrôle, la maîtrise de ce monde. Et donc finalement une forme de transcendance interne au monde. Et ce que j'envisage comme point métaphysique, il est vrai que ça correspond à quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine atopie, c'est-à-dire de l'ordre d'un sans-lieu. Je pense que la solution cartésienne ou la solution de la civilisation qui s'inscrit à partir du schéma cartésien a consisté, ou c'est révélé comme une absence de métabolisation de l'atopie. C'est-à-dire que, au fond, il n'y a pas de rapport entre l'extériorité cartésienne et le contrôle du monde. Il y a une sorte de clivage entre les deux, un clivage entre la transcendance de l'ego et la maîtrise du monde. Autrement dit, Le problème, c'est de métaboliser à nouveau le rapport entre l'atopie et la relation. Il s'agit de métaboliser une relation à partir d'une forme d'extériorité. L'une des erreurs de la pensée contemporaine, c'est d'avoir cru qu'on pourrait se débarrasser de la transcendance cartésienne par un surcroît d'immanence. Et en fait, ce surcroît d'immanence est au fond l'oubli de la position atopique. Donc, c'est comme si on avait affaire finalement à deux dangers qui au fond sont symétriques, une radicale extériorité, une sorte d'indemnité humaniste d'un côté, et de l'autre, une immanence saturée. Alors, je refuse donc ces deux possibilités, et j'essaie de montrer la façon dont toute relation, finalement, implique en elle-même une forme, implique un sans-lieu. Il n'y a pas de relation sans l'enveloppement d'un sans-lieu. Une relation qui voudrait se débarrasser de ce sans-lieu ne serait pas une véritable relation. Serait quelque chose de l'ordre d'une fusion. Alors je veux bien accepter avec Maître Eckhart l'hypothèse d'une fusion sans confusion. À l'extrême, on a encore là quelque chose de l'ordre de la relation. Mais c'est le sans confusion qui maintient la séparation sans laquelle toute relation s'abolit. Mais il y a une autre façon aussi d'envisager la prégnance de ce préfixe méta. Dans le concept, l'idée de métaphore. Et mon livre finit sur la question de la métaphore. Et pour le coup, cette question ouvre ce à quoi je travaille en ce moment, la métaphore, ou ce que j'appellerais plutôt le métaphorique. Dans la poésie contemporaine, la poésie qui compte, en rappelant toujours que la poésie est ce qui compte, est ce qui calcule la séparation, et la poésie compte en ce sens aussi où elle est finalement ce qui nous permet de respirer. La poésie contemporaine se méfie extraordinairement de la métaphore. Je pense à quelqu'un comme Emmanuel Occart, je pense à Jean-Marie Day, je pense à Nathalie Quintane. Alors bien entendu, il y a des bonnes raisons de se méfier de la métaphore, au sens où la métaphore désignerait la belle poésie, la poésie vaine, la poésie qui s'évade, et donc la poésie qui rate le monde. Mais cependant, on peut entendre aussi que, là encore, le rejet de la métaphore peut conduire à la prose la plus radicalement incapable de pouvoir se séparer du monde. En fait, si on lit bien les poètes dont je vous parle, on s'apercevra qu'ils introduisent sans cesse de la négativité et du transport, c'est-à-dire du métaphorique. Le métaphorique, c'est le mouvement même qui nous permet de pouvoir être au monde sans être collé à celui-ci. Et le métaphorique, c'est donc le souffle même du vivant. Je crois que toutes les formes de vie métaphorisent en ce sens-là. Une autre manière d'envisager ce que méta veut dire, c'est d'affirmer que méta signe le passage du négatif. Parmi les manquements de la pensée contemporaine, et parmi donc l'un des plus grands consensus qui soit, il y a l'idée que de la négativité, il faudrait se débarrasser, qu'il faudrait penser sans la négativité. Or, je crois que tout à l'heure, enfin, je parlais en tout cas de métabolisation. Eh bien, la métabolisation, comme la séparation, comme l'atopie, c'est ce que toute culture, toute civilisation ou toute vie doit métaboliser. Ça veut dire qu'il faut en faire quelque chose, qu'il faut la mettre à l'œuvre, la mettre au service d'Eros. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est-à-dire lorsque la négativité n'est pas mise au service d'Eros, elle devient purement destructrice. Elle s'incarne sous la forme du sacrifice. On peut dire qu'aujourd'hui, par exemple, la négativité est à l'œuvre dans le sacrifice des populations, parce qu'on ne sait pas l'intégrer dans un certain type d'acte, pour reprendre un mot sur lequel a beaucoup travaillé Bernard Raspe, un type d'acte permettant de pouvoir localiser la négativité au service du bien, au service de la justice, au service de ce qui est finalement un des mots le plus haut, non pas un des mots ontologiques les plus hauts, mais un des mots les plus hauts pour nous, c'est-à-dire la vie. Et au fond, le métaphorique, c'est l'expression d'une forme de vie qui sait allier la négativité à Eros.
Attendre l'événement, ou célébrer éternellement, ou pleurer son manque. Est-ce interdire de voir le pare-brise X fois fendillé des existants? Nous balançons entre le port et la falaise. Quand nous croyons arriver au port, nous sommes proches de nous fracasser. Et quand nous croyons nous fracasser, tout est calme, mer d'huile, plus rien ne bouge. C'est étrangement inquiétant. On passe bizarrement de l'immobile au mobile, et du temps à l'éternité. On cherche l'un et trouve l'autre. On fuit l'autre et débouche sur l'un. Mais pas exactement, peu s'en faut, juste assez pour que loin s'en faille. La désintégration s'avère travail d'orfèvre. Plus nous avançons, et plus nous comprenons qu'il faut agir avec précaution, ou que l'absence de précaution doit être envisagée posément. Plus nous avançons, et plus nous comprenons qu'il faut agir avec précaution, ou que l'absence de précaution doit être envisagée posément. Il ne s'agit donc pas d'ouvrir les vannes, mais d'inspecter les plomberies, l'état des tuyaux et des robinets, mesurer la turbulence des flux, et chercher à comprendre les technologies inertielles qui s'en défendent, nos manières de boucher les trous. C'est ainsi que la critique des flux ne vise pas la fluidification totale, mais une métabolisation nouvelle de la négativité au service d'un monde reconfiguré. Ce sont les flux absolus qu'il faut désintégrer en leur rétrocédant de la turbulence, qui ne cependant pas en soi une qualité, elle ne fait pas forcément au monde, on n'habite pas le chaos. On ne peut pas simplement opposer l'absolu inertiel aux relations chaotiques, d'autant plus que le chaos afigural, le flux laminaire, possède la caractéristique même de l'absolu et peut revenir sous la forme terminale d'une dissémination sans avenir. Alors on pourrait dire, le monde, la possibilité d'un monde, se tient entre le chaos et l'ordre. Cristal et fumée, comme dit Atlan. Mais ce n'est pas suffisant, parce que nous soufflons du cristal et que la fumée nous aspirons. Parce que l'un et l'autre passent entre d'une part et d'autre part, ne passent pas de la même manière.
L'être nous souffle à l'oreille une envie inertielle, mais se soustrait assez pour nous inspirer un turbulent désir. C'est d'ailleurs cette étrangeté, cet être en jeté, qui perturbe le concept d'une nature purement processuelle, avançant comme un seul élan vital, sans béance interne. Le concept de transformation tend à aplanir la cohérence, à flécher non seulement l'irréversibilité, le temps, mais aussi l'espace corporel au profit du devenir, comme si rien ne manquait, freinait, revenait. Donc, avec trans, faire venir ek, sub, para, ana, dis, rétro. Montrer la symétrie productive des formations d'absolu et des transformations d'absolu et des retours de chaos qui se faufilent par les béances spirales, les désajointements qui écartent d'elles-mêmes les boucles lorsqu'elles reviennent vers elles-mêmes sans parvenir à se toucher. Et dans cet entre-là, cet entrelac, reposer la question du monde. Sommes-nous condamnés aux mauvaises solutions de rechange pour éviter le chaos? Mais en voulant éviter le chaos, que ferons-nous d'autre, si ce n'est produire des flux laminaires? Mais l'impression de faire du surplace, de piétiner, heureusement du surplace inexactement, il est temps de chercher d'autres solutions. De plus en plus loin de la solution, de plus en plus près du problème. Cosmocratie.
Des mots les plus hauts pour nous, c'est-à-dire la vie.